La justice est la cité idéale de Platon, une quête philosophique et symbolique de l'harmonie universelle. Dans la République, Platon ne se contente pas de définir la justice ou de rêver une cité parfaite. Il tisse une tapisserie philosophique et symbolique où l'âme humaine et la société se reflètent l'une dans l'autre. La justice, pour lui, n'est pas une simple règle juridique, mais une harmonie profonde, un équilibre entre les parties d'un tout, qu'il s'agisse de l'individu ou de la collectivité. La cité idéale, quant à elle, est une utopie qui transcende les contingences historiques pour devenir un miroir de nos aspirations et de nos luttes intérieures. Cet article, dense et poussé, explore ces concepts dans leur moindre recoin, offrant au lecteur une compréhension exhaustive, presque viscérale, et des clés pour les incarner dans sa propre vie. Donc préparez-vous à un voyage long et riche où chaque idée se déplie comme un pétale d'une fleur infinie. Platon commence la République par une question posée par Socrate. Qu'est-ce que la justice ? Pour y répondre, il propose une méthode audacieuse. Examiner la justice dans une cité plus vaste et donc plus lisible que dans une âme individuelle. Ainsi naît la cité idéale, un projet théorique construit de toutes pièces pour refléter un ordre parfait. Cette cité n'est pas un lieu géographique mais une abstraction, un modèle pensé pour révéler des vérités universelles. La cité idéale est structurée en trois classes, chacune correspondant à une fonction essentielle et à une partie de l'âme humaine. Je vous invite à ce titre à voir l'autre article sur la tripartition de l'âme, selon Platon. En numéro 1, les philosophes rois, représentant la raison. Ils gouvernent grâce à leur connaissance des idées, notamment celle du bien. Leur rôle est de contempler la vérité et de guider la cité vers cet horizon. Ensuite viennent les gardiens, incarnant le courage. Ils protègent la cité tant contre les ennemis extérieurs que contre les désordres internes. Leur vertu est la vaillance, tempérée par l'obéissance à la raison. Et pour terminer, il y a les producteurs, associés au désir. Ils incluent artisans, paysans, commerçants, tous ceux qui produisent les biens nécessaires à la vie matérielle. Leur vertu est la tempérance, la modération dans leurs appétits. La justice dans cette cité n'est pas une loi imposée mais un état naturel. Elle émerge lorsque chaque classe remplit sa fonction propre sans empiéter sur les autres, comme dans une symphonie. La beauté naît de l'accord avec des instruments distincts, jouant chacun leur partition. La justice comme ordre cosmique, il y a ici une exploration philosophique. En premier lieu, la justice individuelle et collective. Platon établit un parallélisme saisissant. La justice dans la cité reflète la justice dans l'âme. Une âme juste est celle où la raison gouverne. Le courage soutient et les désirs obéissent. Une cité juste suit le même schéma. Les philosophes dirigent, les gardiens protègent, les producteurs suivent. Cette analogie n'est pas fortuite. Elle suggère une unité profonde entre l'individu et le social, une résonance ontologique. La justice n'est pas un contrat arbitraire, mais une participation à un ordre éternel, celui des idées. En second lieu, c'est la suprématie de la raison. Pourquoi les philosophes rois ? Parce que seule la raison, éclairée par la contemplation du bien, peut voir au-delà des apparences et des passions. Les gardiens, sans cette vision, risquent de verser dans la brutalité. Les producteurs, livrés à leurs appétits, sombreraient dans l'avidité. La raison n'est pas une tyrannie, mais une lumière. Comme le soleil, dans l'allégorie de la caverne, elle rend tout éligible et viable. Cette idée définit nos démocraties modernes, où l'opinion, la doxa, prime souvent sur la sagesse, épistémée. Ensuite, il y a l'éducation et le mythe des métaux. Pour maintenir cet ordre, Platon propose une éducation rigoureuse, surtout pour les gardiens et les philosophes. Les enfants sont testés dès leur plus jeune âge par des exercices physiques, musicaux, mathématiques, pour révéler leur nature. Pour justifier cette hiérarchie, il invente une noble fiction, le mythe des métaux. Les âmes contiennent soit de l'or, les philosophes, soit de l'argent, les gardiens, soit du bronze, les producteurs, déterminant leur rôle. Ce mensonge stratégique vise à unir la cité, mais soulève une question éthique. La vérité doit-elle céder à l'harmonie ? En quatrième lieu, la communauté des biens et des familles. Chez les gardiens et les philosophes, Platon abolit la propriété privée et la famille nucléaire. Les femmes et les hommes partagent tout, biens, enfants, partenaires, pour éviter l'égoïsme et renforcer l'unité. Les enfants sont élevés collectivement, ignorant leurs parents biologiques. Cette radicalité vise à briser les attachements personnels qui divisent, mais elle choque notre instinct individuel. Est-ce une perte ou une élévation ? En dernier lieu, cinquième et dernier lieu, c'est la décadence des régimes. Platon décrit aussi comment une cité idéale peut dégénérer. De l'aristocratie, gouvernement des meilleurs, à la timocratie, règne de l'honneur, puis à l'oligarchie, pouvoir des riches, à la démocratie, chaos des désirs, et enfin la tyrannie, domination d'un seul appétit. Ce cycle n'est pas qu'historique, il reflète les déséquilibres possibles dans une âme ou une société. La justice est fragile, un fil tendu au-dessus de l'abîme. Une lecture symbolique, la cité comme âme du monde. La cité idéale est donc une métaphore puissante. Elle symbolise l'âme humaine, mais aussi un rêve universel, celui d'un ordre où chaque partie trouve sa place. Les philosophes rois sont notre boussole intérieure, cette voix qui cherche le sens. Les gardiens, notre feu, cette ardeur à protéger ce qui compte. Les producteurs, notre corps, ces besoins qui nous ancrent dans le réel. La justice devient alors une danse cosmique, un reflet de l'harmonie des sphères célestes que Platon admirait. Cette cité est aussi un temple. Ces trois classes évoquent des initiations mystiques, les producteurs vivent dans le profane, les gardiens dans le combat sacré, et les philosophes dans la contemplation divine. Elle incarne une inspiration à transcender le chaos humain, à rejoindre l'intelligible. Pourtant, son caractère irréalisable, Platon lui-même admet que cette cité appartient au ciel, non à la terre. Et cela la rend poignante. Une sorte d'idéal qui éclaire sans jamais s'incarner pleinement. Voyons maintenant les implications comme défi pour l'homme moderne que nous sommes. Il y a une critique de l'égalitarisme. Platon rejette l'idée que tous doivent décider. La justice n'est pas l'égalité des voix, mais l'équité des rôles. Dans un monde où la démocratie valorise le nombre, il nous force à réfléchir. Qui est légitime pour guider ? L'expert ou la foule ? Cette tension reste vive aujourd'hui. Deuxièmement, l'unité contre l'individualisme. La communauté des biens défie notre attachement au mien. Platon voit dans la possession une source de division, un écho à nos sociétés où l'accumulation fracture les liens. Peut-on imaginer une vie où l'intérêt collectif prime sur le personnel ? Troisièmement, la fragilité de l'ordre. Le cycle des régimes nous rappelle que l'harmonie est précaire. Nos démocraties, avec leurs excès de liberté ou leurs dérives populistes, flirtent avec les étapes décrites par Platon. La justice exige une vigilance constante dans nos lois comme dans nos cœurs. Quatrièmement, une éthique de la spécialisation. Chacun son rôle. Peut sembler rigide, mais il invite à une vérité profonde. Nous prospérons en cultivant nos forces, pas en imitant autrui. La justice sait trouver sa note dans l'orchestre, pas de jouer tous les instruments. Alors comment l'adapter à sa vie ? Voici un guide pratique en 5 actes. Comment faire de cette vision un levier pour votre existence ? Je vous propose un chemin concret, inspiré par la cité idéale, pour incarner la justice dans votre quotidien. Donc dans un premier temps, identifiez votre classe intérieure. Réfléchissez quelle part de vous domine. Êtes-vous un philosophe, cherchant la vérité dans le silence? Est-ce que vous êtes un gardien, prêt à défendre vos valeurs, ou est-ce que vous êtes un producteur, ancré dans les plaisirs et les tâches concrètes? Notez vos inclinations, elles révèlent votre métal. L'objectif n'est pas de changer, mais d'harmoniser. Dans un second temps, mettez la raison aux commandes. Face à une décision, disons un conflit avec un proche, invoquez votre philosophe roi. Demandez « qu'est-ce qui est juste au-delà de mes émotions ?» Prenez 10 minutes pour peser les faits, pas les impulsions. La raison clarifie, elle ne dicte pas sans écouter. Troisièmement, canalisez votre courage. Quand une cause vous appelle, une injustice au travail, un ami en détresse, laissez votre gardien agir, mais alignez-le sur la raison. Pas de colère aveugle, juste une fermeté éclairée. Un geste courageux, même discret, renforce l'ordre en vous. Modérez vos désirs. Vos appétits, argent, confort, reconnaissance sont vos producteurs. Ils ne sont pas à nier, mais à limiter. Si vous voulez acheter quelque chose, demandez, cela sert-il l'harmonie ou l'excès? La tempérance libère, elle n'étouffe pas. Et en dernier lieu, construire votre cité personnelle. Votre vie est une petite cité. Vos relations, vos projets, vos routines. Qui gouverne? Qui protège? Qui produit? Ajustez les rôles. Par exemple, déléguez à un ami gardien le soin de vous motiver ou à un livre philosophe, celui de vous guider. La justice naît quand chaque élément joue sa partition. Voyons maintenant la cité idéale face au XXIe siècle. Aujourd'hui, la cité idéale semble utopique, voire autoritaire. Nos sociétés valorisent la liberté individuelle, pas la hiérarchie imposée. Pourtant, le diagnostic de Platon reste pertinent. Nos démocraties vacillent sous le poids des désirs, consumérisme, populisme, tandis que la raison est reléguée au second plan. Noyée dans le bruit médiatique, le courage, lui, se perd en débats stériles ou en apathie collective. La justice platonicienne nous défie. Pouvons-nous restaurer un ordre, non par la force, mais par la sagesse? Le communautarisme de Platon résonne aussi avec nos quêtes modernes de sens. Face à l'isolement, à la fracture sociale, son appel à l'unité, même radicale, interroge. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour un bien commun? Et son cycle des régimes éclaire nos crises. Ne voyons-nous pas des traces de tyrannie dans les dérives autoritaires actuelles? Utilisons maintenant une méditation un peu plus poussée. La justice comme participation au divin. Pour Platon, la justice n'est pas une fin, mais une voie vers le bien, cette idée suprême qui transcende tout. La cité idéale n'est pas un but pratique, mais une icône, un reflet terrestre du monde, intelligible. Chaque acte juste, chaque rôle bien joué est une offrande à cet ordre divin. Les philosophes rois, en contemplant le bien, deviennent presque des prêtres, médiateurs entre l'humain et l'éternel. Les gardiens, en se sacrifiant, incarnent une noblesse quasi sacrée. Les producteurs, en modérant leurs désirs, participent à leur échelle à cette harmonie. Symboliquement, la cité est une sorte de mandala. Un cercle parfait où chaque segment, distinct, soutient le tout. Elle évoque les cités célestes des mystiques, la Jérusalem biblique, le jardin d'Éden, mais ancrée dans une rationalité grecque. Cette dimension spirituelle ajoute une profondeur. Vivre justement, c'est aligner son âme et sa société sur un rythme cosmique, une danse des sphères que Platon admirait dans les mathématiques et l'astronomie. Je vous propose maintenant un idéal à questionner et d'explorer ensemble les limites et les critiques. La cité idéale n'est pas sans faille. Aristote, disciple de Platon, critiquera son abstraction. Une société sans propriété ni famille est-elle humaine? L'égalité des sexes chez les gardiens est révolutionnaire. Mais leur contrôle reproductif, des unions planifiées pour engendrer les meilleurs, frôle l'eugénisme. Et que dire du mythe des métaux ? Un mensonge, même noble, peut-il fonder une justice authentique ? Ces tensions enrichissent le propos. La cité idéale n'est pas un blueprint, mais une provocation. Elle nous force à peser nos valeurs. Liberté ou ordre ? Vérité ou cohésion ? Égalité ou excellence ? Platon ne résout pas ces dilemmes. Il les pose brutaux et nus pour que nous les affrontions. En conclusion, ce que je vous propose ici, ce que vous propose Platon, c'est de devenir un architecte de la justice. La justice et la cité idéale de Platon ne sont pas des reliques. Elles sont une torche dans l'obscurité de nos vies. Vous comprenez maintenant que la justice n'est pas un verdict, mais une harmonie dans votre âme, entre vos proches, dans le monde. La cité idéale n'est pas un lieu, mais un état d'esprit, un appel à ordonner vos forces, à élever votre raison, à unir vos fragments. Alors je pense que maintenant, vous voilà armé. Vous savez que chaque choix, écouter votre sagesse, défendre une cause, tempérer une envie, bâtit finalement votre cité intérieure. Vous voyez le cycle des régimes dans vos propres excès ou ceux de votre époque. Et vous portez une question, comment faire de votre vie un reflet du bien ? Platon ne vous donne pas toutes les réponses, mais il vous tend les outils. Une pelle pour creuser, une plume pour rêver, une règle pour mesurer. Alors, commencez, faites de votre quotidien une petite république. Soyez le philosophe qui cherche le gardien qui protège, le producteur qui nourrit. La justice n'attend pas une cité parfaite. Elle commence là, dans vos mains, aujourd'hui. Vous n'êtes plus un spectateur du mythe, vous êtes le bâtisseur.